Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur les ratés de l'intervention de la France contre le régime syrien. Il y a deux mois, plusieurs missiles n'ont pas fonctionné, or l'État se retranche toujours derrière le secret défense. Mais que s'est-il donc passé ce jour-là? Pourquoi des bugs à répétition? On va voir ça avec vous, Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour Jacques.
Avec Bruno Denas, le médiateur de Radio France, nous reviendrons ensuite sur l'affaire des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacques Menin.
Et puis nous recevrons Lionel Lévy, bonjour également.
Bonjour.
Alors pour le magazine Sans Froid, vous avez enquêté sur des milliards évaporés d'un étrange fonds d'investissement, une affaire au détour de laquelle apparaissent les noms de Bernard Arnault et de Nicolas Sarkozy.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Je peux affirmer que la mission est un succès. Ses objectifs militaires sont atteints. Par ailleurs, tous nos missiles sont parvenus à leur objectif.
Voilà, ça c'était Florence Parly, la ministre des Armées, expliquant le 14 avril dernier que les frappes qui viennent d'être conduites par la France aux côtés de la Grande-Bretagne et des Américains ont été un succès. Et elle explique que tous les missiles français tirés dans le cadre de cette opération ont atteint, vous l'avez entendu, leur objectif. Alors factuellement, c'est vrai, hein, cette affirmation est exacte, mais ce qu'omet alors de dire la ministre, c'est que la France a tiré moins de missiles que prévu parce que 4 d'entre eux ont connu des ratés. Nous avons donc voulu comprendre, secret d'info, ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, mais peut-être Nathalie Hernandez, il faut d'abord se remettre en situation, hein, cette opération. Elle avait pour but de punir Bachar el-Assad après une attaque chimique que la France et ses alliés attribuaient à son régime.
Oui, rappelez-vous Jacques, le président Macron avait prévenu si la ligne rouge est franchie, il y aura une riposte. Et cette ligne a été franchie le 7 avril dernier à Douma, près de Damas. La France en est persuadée. Pour elle, le régime syrien a bien utilisé des armes chimiques contre son peuple. Paris, Washington et Londres décident donc de frapper militairement des sites en Syrie.
Et pour ça, ils vont définir plusieurs cibles.
Oui, il faut planifier les actions des uns et des autres, se mettre d'accord sur qui va faire quoi dans les airs et en mer, en évitant bien sûr, Jacques, de toucher des civils ou des soldats russes, principaux alliés de Damas. Alors, 3 sites de fabrication et de stockage d'armes chimiques sont choisis. L'un en banlieue de Damas, c'est un centre de recherche où seuls les Britanniques et les Américains vont frapper. Les 2 autres sont dans le centre du pays, près de Homs. C'est là que les Français vont intervenir.
Donc l'opération, on le comprend, est mise au point. Et c'est dans la nuit du 13 au 14 avril que ces frappes ont lieu.
Précisément, Jacques, à 3h du matin, c'est le président américain Donald Trump qui l'annonce.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce soir d'ordonner des frappes précises sur des cibles liées au programme d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar el-Assad. Une opération militaire conjointe avec la France et la Grande-Bretagne est en cours.
Voilà donc pour l'annonce générale sur cette opération, Nathalie. Maintenant, dites-nous, nous, précisément, dans ce dispositif, on fait quoi?
Pour mener à bien, Jacques, cette opération, la France a prévu 2 volets, l'un aérien, l'autre maritime. C'est ce que détaille le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre.
Un raid a conduit nos aviateurs à mener depuis la France, avec 5 ravitaillements en vol, 10 heures de vol d'affilée en conditions de combat, en commandant et en mettant en œuvre 5 Rafales, 4 Mirage 2005, 2 AWACS et 6 ravitailleurs. Pour la marine, la performance consiste notamment à un déploiement maritime d'envergure qui a permis de mettre en place 3 frégates multimissions, une frégate anti-sous-marine et une frégate anti-aérienne afin de couvrir, renseigner et protéger dans les secteurs de la zone d'action l'ensemble de nos moyens navals.
Bon alors jusqu'ici, tout va bien, tous ces moyens qu'on vient d'énumérer sont bien déployés par la France, sauf qu'un grain de sable va gripper cette belle machine.
Et oui, et c'est la lettre A qui le révèle le 17 avril. Les frégates multimissions qui doivent tirer pour la première fois des MDCN, comme on les appelle, des missiles de croisière navale, eh bien ces frégates vont rencontrer plusieurs aléas techniques, comme nous le confirme Jean-Marc Tanguy, grand reporter au magazine Red.
La marine française devait tirer des missiles de croisière navale. Ce sont des missiles qui ont une portée de 1000 km, une charge militaire de 250 kg d'explosifs. Et il se trouve que trois frégates étaient en mesure de tirer ces missiles, deux particulièrement. Et là, il va se passer quelque chose qui n'arrive quasiment jamais à la guerre. C'est-à-dire que la première frégate qui doit délivrer cette arme connaît manifestement quelque chose qui s'apparente à un bug informatique, donc ne peut pas tirer. La deuxième, elle, a un problème qui semble plus lié cette fois au missile lui-même, c'est-à-dire il fait long feu, il ne part pas. Et là, le dernier recours, si on peut dire, c'est la troisième frégate qui tirera effectivement trois missiles, les trois qu'elle a à bord. Et donc c'est la frégate Languedoc qui s'en charge.
Attendez, Nathalie, on est en train de nous dire là que deux frégates n'ont pas pu tirer correctement leurs missiles et que c'est donc la troisième qui a fait leur boulot.
Oui, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres choix car il faut savoir que cette opération militaire se déroule dans un laps de temps très court. Le créneau de tir ne dure que quelques minutes. Il n'est donc pas possible de retenter sa chance. C'est pourquoi les commandants des deux premières frégates ont préféré passer la main au troisième bâtiment, une frégate qui était là en secours mais qui n'avait pas assez de missiles. Résultat, au lieu d'en tirer 8, eh bien, il n'y en a eu que 3 de tirés.
Oui, le comble, c'est qu'il n'y a pas eu que les frégates qui ont connu des déboires. Un avion Rafale, lui aussi, a eu des soucis.
Oui, dans les airs aussi, il était en effet prévu de tirer 10 missiles Scalp, mais l'un d'eux ne va pas donner toutes les garanties nécessaires. Un militaire qui préfère rester anonyme et dont nous avons fait lire les propos nous explique ce qu'il s'est passé précisément.
Quand l'ordre est donné de frapper, le missile fait lui-même ses vérifications grâce à son intelligence artificielle intégrée. Si tout va bien, les feux sont au vert. Mais ça n'a pas été le cas. En raison du temps très court pour mener à bien la mission, les pilotes ont donc préféré désactiver la charge et larguer le missile en pleine mer.
Alors, en pleine mer, ce qui n'était quand même pas l'idée de départ. Alors ça fait tout de même plusieurs missiles qui ne sont pas partis des frégates et un autre qu'on a donc balancé en mer. Et comment les autorités, elles, expliquent ces bugs ?
Eh bien, c'est simple, pas de commentaire. La ministre des Armées, Florence Parly, invoque le secret défense sur cette opération militaire.
Nous n'avons pas l'habitude de commenter ce que nous faisons, pour une raison extrêmement simple, que chacun comprendra, c'est que ce sont des informations classifiées. Et donc, je n'ai pas l'habitude de commenter, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Donc, je n'ai pas l'habitude de commenter des informations classifiées, je n'ai pas l'habitude de commenter les performances respectives de tel ou tel système d'armes.
Ouais, Nathalie, c'est ce qui s'appelle clairement une fin de non-recevoir.
Oui, c'est cela. On nous explique qu'il n'est pas question de donner des informations à l'adversaire. Personne n'a répondu positivement à nos demandes d'interview, que ce soit la marine ou Naval Group, l'industriel français qui construit la frégate, ou encore MBDA, le leader européen fabricant de ces missiles.
Donc pas de réponse officielle, dont acte. Maintenant, vous, Nathalie, de votre côté, est-ce que vous avez une explication à nous donner sur ce qui s'est passé ?
Franchement, Jacques, une réponse claire aujourd'hui, non. Simplement, ce que relève Vincent Groiselot, rédacteur en chef du magazine Mer et Marine, c'est qu'on n'a quasiment pas fait de test en mer en tirant un missile depuis une frégate.
Alors, il n'y en a eu malheureusement qu'un seul, officiellement, mais je pense qu'on le saurait s'il y en avait eu d'autres. Un seul, c'est peut-être pas assez. Généralement, pour des nouveaux missiles, on essaye d'en tirer quand même un certain nombre. Là, l'essai a été fait, unique. Il a très bien fonctionné, il a rempli tous les objectifs qui lui avaient été assignés. Et donc, à l'époque, on a considéré donc que ce système était valide, qu'il n'y avait pas besoin de faire d'autres tests. Et donc, on a eu ensuite le deuxième tir. C'était des tirs opérationnels au large de la Syrie, il y a quelques semaines.
Ouais, c'est un peu comme si on installait un logiciel de comptabilité dans une entreprise sans l'avoir assez testé. Maintenant, vous me direz, ça arrive. Hein. On serait donc allé un peu vite, hein, en besogne, c'est ce qu'on nous explique.
Oui, mais certains avancent une autre explication. L'enchaînement de ces aléas pourrait être dû à un piratage par une puissance étrangère. C'est en tout cas une inquiétude relevée par un parlementaire de la commission de la défense qui m'a parlé sous couvert d'anonymat. Ses propos sont lus par un de nos journalistes.
Dans la zone où sont positionnées les frégates françaises, la présence de sous-marins russes a été relevée. Et les Russes semblent avoir retrouvé d'importantes capacités militaires. De là à penser qu'il y a pu y avoir piratage, c'est une question pour l'heure sans réponse.
Ouais, question sans réponse, sauf que d'autres experts, eux, considèrent que cette hypothèse, Nathalie, elle tient pas la route.
Oui, pirater le système d'une FREMM, cette frégate dernière génération, eh bien cela semble peu réaliste, c'est ce que nous explique le chercheur Corentin Brucelin. Il est responsable du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales.
Qu'un sous-marin russe pirate une FREMM en parvenant à paralyser son système de tir, ça me paraît extrêmement peu probable. C'est des systèmes qui communiquent pas avec l'extérieur. Ce que peut faire un sous-marin, c'est effectivement faire des écoutes. Il pourrait éventuellement essayer de gêner le déploiement, contraindre le déploiement des FREMM. Mais à mon avis, les sous-marins russes préfèrent être discrets et écouter ce qui se passe plutôt que de dévoiler leur position aux yeux des frégates et donc de ne plus être en mesure de remplir leur mission.
Ce qui veut dire que l'hypothèse la plus probable, ça reste tout de même un problème de fiabilité. Mais du coup, Nathalie, on peut se demander si ce secret défense qu'on nous oppose toujours, il n'a pas simplement pour but de protéger les intérêts des industriels qui les fabriquent, ces missiles.
C'est possible parce que l'enjeu est de taille, Jacques. Un missile MDCN coûte environ 1 million d'euros. Il est prévu d'en fabriquer 150 pour la France et potentiellement d'en vendre à l'étranger. Alors pour MBDA qui fabrique ce missile, ce type d'incident technique, ça peut en effet avoir des conséquences, estime le chercheur Corentin Brucelin.
Ça peut poser un problème parce que la crédibilité technique et opérationnelle d'un système est évidemment importante pour convaincre les acheteurs potentiels. On a vu dans le cas du Rafale que le fait qu'il ait été testé avec efficacité en opération, ça a démontré aux yeux de tout le monde sa valeur opérationnelle, voire stratégique. Là, évidemment, ça brouille le message. Ça peut expliquer une certaine réticence à communiquer autour des résultats du tir de Syrie.
Ouais, donc, pour l'État, ne pas ébruiter cette affaire, ça équivaudrait à préserver les intérêts des industriels. Sauf qu'on peut se demander si c'est le bon calcul.
Effectivement, parce que moins on en sait, plus on spécule, et cela entretient le doute sur la fiabilité de ces missiles. C'est pourquoi Jean-Marc Tanguy du magazine Red pense qu'il faut qu'on sache rapidement ce qui est arrivé.
La réponse va devoir venir parce que sinon l'arme ne pourra pas être déployée. Très clairement, une arme qui n'est pas fiable ne peut pas être utilisée. Donc dans ce cas-là, il faudrait la sortir de l'arsenal français. Et là, ce serait une très mauvaise affaire pour la défense française et pour le contribuable français.
Le sujet, Jacques, est d'autant plus sensible qu'il faut savoir qu'il y a peu de clients pour ces missiles, notamment parce qu'ils ont une portée de 1000 km et qu'on ne peut pas les mettre entre n'importe quelle main.
Oui, ce qu'on peut effectivement comprendre. À suivre donc maintenant l'autre question de fond, l'autre question qui se pose, Nathalie, dans tout ça, c'est franchement, est-ce que le secret défense s'impose dans une affaire pareille ?
C'est une vraie question, et en tout cas pour Jacques Gauthier, l'ancien vice-président Les Républicains de la Commission de Défense du Sénat. Ce secret, Jacques, ne devrait pas s'appliquer dans le cas présent.
Je crois qu'il y a des opérations qui doivent rester secrètes. On le voit bien sur les forces spéciales, on voit bien lorsqu'il y a des problèmes où nos soldats risquent leur vie. Je crois que le secret défense doit être préservé, et je suis le premier à le défendre. Par contre, lorsqu'une opération est achevée, que des médias étrangers et même des officiers généraux étrangers en font état et parlent de dysfonctionnement sur les tirs de missiles français, il vaut mieux qu'on soit les premiers à réagir plutôt que d'attendre que les journalistes avancent des hypothèses qui ne sont pas toujours les bonnes parce qu'on leur fournit pas les bonnes réponses. On voit bien que le ministère doit réfléchir en amont à sa conduite de tir, entre guillemets, au niveau communication.
Alors justement, la ministre des Armées va peut-être en dire un peu plus puisqu'elle sera entendue sur cette question le 27 juin prochain en commission à l'Assemblée nationale. Et puis Jacques, selon nos informations, de leur côté, les industriels et les militaires doivent te rendre un rapport exhaustif cet été sur ce qu'il s'est passé.
Oui, un rapport qui sera d'ailleurs sans doute lui aussi classé secret défense. Bon, en attendant, merci beaucoup Nathalie Hernandez pour cette enquête, et je précise qu'on peut cette enquête la retrouver sur franceinter.fr.
Secret d'info, Jacques Monin.
Alors on va changer complètement de sujet. Nous retrouvons à présent, comme chaque mois, le médiateur de Radio France. Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Avec vous, voyons donc ce que pensent les auditeurs de nos enquêtes, ce qu'ils en disent. Et une fois n'est pas coutume d'ailleurs, il y en a une qui a essentiellement retenu leur attention.
Ah oui, ça on peut le dire, et je ne vous étonnerai pas justement en disant qu'il s'agit principalement de l'enquête très fouillée d'Élodie Guéguin et Sylvain Tronchet sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Plusieurs auditeurs n'ont visiblement visiblement pas compris ce qui était illégal dans les importantes réductions accordées pour la location des salles de spectacle destinées au meeting du candidat Macron. Pour Thérèse, je ne comprends pas en quoi des ristournes sont un signe de malhonnêteté. Et pour Alain, le candidat Macron fait faire des économies au budget de l'État et voilà que vous lui tombez dessus comme s'il avait triché. Ou Christana, savoir bien négocier ses coups de campagne et obtenir des réductions prouve que l'on est un bon gestionnaire, on devrait plutôt le féliciter.
Ouais, bon, alors là, je crois qu'il faut quand même rappeler quelques règles simples qui régissent les campagnes électorales. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Alors, vous qui avez travaillé sur le sujet, donc rappelez-nous où est le problème dans cette affaire.
Eh bien, le problème, c'est qu'une entreprise n'a pas le droit d'aider un parti politique ou un candidat, et ça, sous quelque forme que ce soit. La loi dit pas le droit d'appliquer des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Donc, quand vous êtes un parti ou un candidat, si vous obtenez une grosse ristourne, finalement, peu importe de savoir si vous êtes ou non un bon négociateur. Ce qui pose problème, c'est que potentiellement, l'entreprise vous a donné un coup de main. Et ça, c'est interdit. Alors, il faut peut-être rappeler le sens de la loi.
C'est ce qu'on peut appeler un don déguisé, puisque si on vous facture 3 000 euros, pour faire simple, une salle qui vaut 10 000 ou 13 000 euros, ça veut dire qu'il y a 10 000 euros de don déguisé.
C'était exactement ça. Et il faut peut-être rappeler le sens de la loi pour bien comprendre exactement pourquoi on a interdit ça, finalement. C'est une loi de 1995. Il faut se replacer dans le contexte, on sort des grandes affaires de financement politique illégal, l'affaire Urba, l'affaire des HLM de Paris, et on décide de mettre en place le financement public des campagnes pour éviter ce genre de pratique en disant « c'est à l'État de financer les campagnes via le remboursement des frais ». Donc l'idée de faire économiser de l'argent public, comme le dit Thérèse, en obtenant des remises, eh bien cette idée n'a pas de sens non plus parce que la loi assume le fait que cela coûte de l'argent. Une élection présidentielle, ça coûte une quarantaine de millions d'euros à peu près aux caisses de l'État.
Bien, alors, d'autres remarques, Bruno, sur cette enquête ?
Oui, des remarques d'ordre politique. D'ailleurs, j'ai fait un petit retour au mois de février et j'ai retrouvé les remarques souvent virulentes d'auditeurs pro-Mélenchon. Ils vous accusaient à ce moment-là de parti pris dans votre enquête, à l'époque, sur les comptes de campagne du candidat de la France insoumise. Jules, par exemple, nous écrivait « Vous vous en prenez une fois de plus à Mélenchon, les ordres viennent d'en haut, bien sûr, vous n'enquêterez jamais sur les comptes de campagne de Macron. » Et oui, Jules avait tort. 4 mois plus tard, c'est Jean-Pierre, comme d'autres auditeurs, qui nous disent « Vous avez plaisir à vous en prendre aux comptes d'Emmanuel Macron, mais évidemment, vous ne le ferez pas pour Mélenchon ou Marine Le Pen. » Jean-Pierre, à la mémoire courte ou sélective ?
Ben oui, on a déjà enquêté sur Marine Le Pen et pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon et de sa campagne, on l'a déjà dit. Non, mais peut-être faut rappeler simplement ce qui nous gouverne. On n'a aucun ou on essaie de n'avoir aucun parti pris. On est dans une démarche, non pas politique, mais journalistique. C'est-à-dire, il n'y a pas de camp et il n'y a pas de tabou. Alors effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon, on a vu qu'il y avait des réactions très virulentes de militants qui nous reprochaient d'avoir enquêté sur ses comptes de campagne. Et ces militants ne cherchaient pas en fait à savoir si ce qu'on disait était vrai. Ils partaient du postulat que c'était faux et qu'on était au service d'un complot finalement ourdi pour déstabiliser leur champion. Donc eux étaient dans une approche idéologique qui n'est pas la nôtre. Et on retrouve le même phénomène d'ailleurs avec les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, où certains justement nous en veulent, partent du principe qu'on atteint finalement à son intégrité et qu'on est au service de ses adversaires. Ce n'est pas notre propos, notre seule boussole, encore une fois, c'est d'examiner les actes de ceux qui prétendent à nos suffrages et qui prétendent nous gouverner. Je veux dire, la transparence absolue n'est pas une vertu, mais un peu de transparence l'est quand même. Et c'est notre boulot de contribuer à cette transparence, donc de voir si des irrégularités existent, si les actes qui sont posés sont conformes aux engagements qui ont été pris. Et ce, quel que soit le camp politique, il faut le rappeler. Puis je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est que le service public, c'est aussi l'indépendance de l'information. Et l'indépendance ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors nous nous en servons. Bon, cela dit, j'ai beaucoup parlé. Il y a d'autres réactions d'auditeurs ?
Oui, Jacques, mais on ne pourra pas toutes les aborder. Une question qui revient dans plusieurs messages, comme dans celui de Marianne. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron ont été validés par la Commission. Pourquoi vous obstinez à rouvrir un dossier sur lequel les spécialistes n'ont rien trouvé à redire ?
D'accord, donc on devrait fermer les yeux. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Alors pourquoi, répondons, pourquoi creuser dans une affaire classée hein, finalement par la commission des comptes de campagne?
D'abord, ça fait partie de nos missions, on va le dire, de ce qu'on attend de journalistes, de s'intéresser au financement de la vie publique et plus précisément des campagnes électorales. Et puis il faut savoir que chaque citoyen a la possibilité d'aller consulter les comptes des candidats à la présidentielle, n'importe qui peut prendre rendez-vous auprès de la commission des comptes de campagne pour consulter des factures. Ce sont des éléments qui sont publics, qu'on peut juger sur pièce. Ensuite, eh bien, sans remettre en cause le travail des rapporteurs de la commission des comptes de campagne qui ont validé les comptes d'Emmanuel Macron, il faut quand même rappeler que c'est cette même commission qui était totalement passée à côté, par exemple, de l'affaire Big Malion. Et puis, en jugeant sur pièce, un certain nombre d'éléments ont suscité notre intérêt, notre étonnement même. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'était de possibles surfacturations. Nous y avons consacré une enquête. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, ce sont de possibles ristournes, des remises accordées par des entreprises aux candidats que les rapporteurs, les spécialistes, comme nous dit Marianne, eh bien, n'ont pas tout vu. Hein. C'est d'ailleurs la commission l'a reconnu lorsqu'on l'a interrogée sur ce point. Elle est passée à côté de certaines remises qui étaient pourtant inscrites noir sur blanc. Donc nous ne rouvrons pas le dossier Macron. Pour conclure, nous faisons simplement notre travail.
Bon, alors si vous le permettez Bruno, j'aimerais aussi qu'Élodie et Sylvain puissent répondre à trois autres questions qui ont trait à cette affaire, parce que En Marche s'est fendu cette semaine d'un communiqué dans lequel le mouvement a donné des arguments de réponse à notre enquête et nous a fait un certain nombre de reproches. Alors parmi ces reproches, il vous reproche, Élodie, par exemple, de ne pas avoir intégré ces éléments de réponse dans votre enquête a priori. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors c'est faux, hein. Nous avons envoyé à La République En Marche une quarantaine de questions et le mouvement nous a envoyé pour seule réponse ce mail, je vais vous le lire. Le mouvement s'est déjà exprimé sur le sujet. Je vous invite à lire le communiqué de presse datant du 2 mai, communiqué ci-dessous, avec donc ce fameux communiqué en pièces jointes qui avait fait suite aux premières révélations de Mediapart et du Monde, mais qui ne répondait absolument pas à nos questions précises. Pour nous, ce communiqué était en quelque sorte hors sujet.
Alors, deuxième chose qui nous est reprochée par En Marche, on nous dit le théâtre Bobineau avait déjà facturé des locations à des prix bas à des associations de loi 1901 à but non lucratif. Donc finalement, ce qu'on a fait avec la campagne d'Emmanuel Macron, c'est la même chose, puisqu'on a consenti à une association de financement de campagne, certes, mais à une association de loi 1901, des tarifs proches de ceux qui avaient déjà été consentis à d'autres associations. Donc selon En Marche, il n'y aurait rien d'inhabituel dans le prix qui a été facturé pour le théâtre Bobineau.
Alors, Sylvain. On va revenir sur l'explication qu'on faisait tout à l'heure. Une association de financement de campagne, ça n'est pas au sens de la loi une association comme les autres. La République En Marche, d'ailleurs, pour dire que des tarifs très bas avaient déjà été pratiqués à Bobineau, prend l'exemple d'un concert de charité pour les victimes du 13 novembre. Ça n'est pas comparable à un meeting de campagne présidentielle. Ce qui doit servir de référence, c'est le prix de marché. C'est-à-dire, pour faire simple, le prix qui est pratiqué à un client lambda qui loue le théâtre. Et nous sommes renseignés, nous avons demandé quel était le prix pour une entreprise notamment qui voulait louer le théâtre Bobineau. On nous a expliqué que c'était 13 ou 14 000 euros sensiblement. Et d'ailleurs, cette information, depuis la sortie de notre enquête, elle nous a été confirmée par d'autres sources. Emmanuel Macron a payé 3 000 euros. Ça pose à minima la question de la ristourne excessive. Et ce qui est avéré, c'est que cette question, la commission des comptes de campagne ne se l'est pas posée.
Alors, dernière chose qu'on nous a reproché En Marche, nous dit si Benoît Hamon a payé plus cher qu'Emmanuel Macron pour l'allocation de la salle de la Bellevilloise, c'est parce que lui a demandé une prestation bien supérieure. Il l'a demandé pour une période beaucoup plus longue que ce qu'a fait En Marche. Donc, en fait, en estimant qu'on a fait une ristourne plus importante à Emmanuel Macron que le prix qui a été facturé à Benoît Hamon, vous mélangez des choux et des carottes, quoi.
Alors, dans nos calculs et nos comparaisons, nous avons évidemment tenu compte des différences de prestations dans les prix pratiqués. Alors, je vous ai apporté trois devis. Un devis pour Emmanuel Macron, un pour Benoît Hamon et un autre pour un parti politique sur une autre période, hors élection. Pour louer cette salle pendant 6 heures, Benoît Hamon paye la location brute, hors option, 2580 euros. Pour 4h30, le parti politique paye 2000 euros. Et pour 2h30, Emmanuel Macron, lui, paye 200 euros. 10 fois moins que le parti politique, 15 fois moins quasiment que Benoît Hamon. Pourquoi cette différence? Alors, la Bellevilloise nous a bien dit que ça n'était pas
on
le même
type. On
dira
parce que le temps est plus court.
Oui, le temps est plus court, mais le temps n'est pas 10 fois ou 15 fois plus court. Là encore, ça pose la question du pourquoi de cette ristourne. Et nous, ce que nous avons noté, c'est que à aucun moment, la Commission nationale des comptes de campagne, encore une fois, ne s'est posé cette question.
Bien, merci Sylvain pour ces explications. On va s'en tenir là pour le moment, même si je subodore que le débat n'est pas clos. Merci Élodie également. Merci à vous Bruno Denas. Continuez-vous, chers auditeurs, à nous envoyer, si vous le souhaitez, vos commentaires et vos questions sur le site du médiateur. On le rappelle, les coordonnées médiateur.radiofrance.fr. Et puis surtout, restez avec nous, puisque dans quelques instants, révélation sur un gigantesque détournement d'argent qui a provoqué une enquête planétaire sur fond de jets, de yachts, d'immeubles de luxe et de personnages sulfureux.
Just leave me behind. Ain't going it on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine. It's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line. So hang up the telephone.
Sacrée voix hein, qui marche un peu sur les traces d'Amy Winehouse, c'était Broke My Own, premier album en solo de la chanteuse américaine Shannon Shaw.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Lionel Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez dans le magazine Sans Froid qui sort le 28 juin une enquête consacrée à ce que vous appelez l'arnaque du siècle, des milliards de dollars qui auraient été détournés d'un fonds d'investissement malaisien, ce qui donne lieu à une gigantesque enquête planétaire à laquelle participe notamment la France. Alors, il faut expliquer de quoi il s'agit. D'abord, tout part de la création d'un fonds, ce qu'on appelle un fonds souverain, c'est-à-dire avec de l'argent d'un État, un fonds souverain malaisien qui a été créé en 2009.
Exactement. Il est créé par le premier ministre malaisien de l'époque, Najib Razak, qui a été renversé récemment en mai 2018. Il crée ce fonds malaisien pour moderniser le pays. Il le crée via une joint venture avec l'Arabie Saoudite.
C'est-à-dire que chacun va mettre de l'argent au pot.
Chacun va mettre de l'argent au pot. 1,5 milliard d'un côté, 1 milliard de l'autre. Sauf que cet argent va disparaître. En l'occurrence, 700 millions de dollars vont disparaître. Derrière cette disparition, on trouve plusieurs acteurs, à savoir un sulfureux homme d'affaires qui s'appelle Joe Lo, un homme d'affaires hongkongais. on trouve le gendre de Najib Razak, le premier ministre malaisien, qui n'est autre que Riza Aziz, qui est un grand producteur hollywoodien. C'est celui qui a produit le Loup de Wall Street. Et cette petite équipe, par une sorte de jeu de bonneteau dans lequel tout le monde gagne, va se partager ces sommes considérables qui vont être ensuite réinvesties dans différents pays. C'est pour ça que aujourd'hui, 14 États, 14 polices et parquets nationaux sont sur cette affaire.
Dont le parquet national financier. Alors, au début, donc, on voit les Malaisiens qui s'associent avec les Saoudiens. Mais comme le scandale commence à être connu, les Saoudiens vont se retirer. Et va entrer en jeu un autre acteur.
Exactement. Un personnage haut en couleur qui est alors le grand argentier d'Abu Dhabi qui s'appelle Khadem Al-Koubaizi. Khadem Al-Koubaizi est une sorte, j'allais dire, de caricature des hauts dignitaires des pétromonarchies, à savoir habit traditionnel le jour et le soir, jet-setter, prince de la nuit même, puisque c'est d'ailleurs Khadem Al-Koubaizi, le premier propriétaire de boîte de nuit aux États-Unis. Il avait d'ailleurs aussi ses habitudes en France, notamment à Saint-Tropez où il était bien connu.
Et c'est lui qui organise la fête des 40 ans de Leonardo DiCaprio.
Une fête qui a fait scandale puisque on avait retrouvé rien que sur les murs de la discothèque Akasan pour plus de 1 million de dollars de champagne, rien que sur les murs.
Ah oui, alors faut dire que ce personnage, hein, Khadem Al-Koubaizi, a aussi beaucoup d'avoir en France. Il a acheté 7 villas ou appartements à Saint-Tropez, il a des complexes de logements sur la croisette à Cannes, il en a un peu partout, dans toutes les villes de la Côte d'Azur et de la capitale.
Exactement, pour plus de 120 millions d'euros en valeur d'acquisition.
Oui, parce que quand on fait le total, je parlais de la croisette, mais il y a aussi deux maisons de luxe à Ramatuel, hein, que vous citez, deux immeubles avenue d'Iéna à Paris, sans parler sans doute d'autres, notamment avenue Raphaël, toujours à Paris, avec en toile de fond la question, est-ce que c'est effectivement bien, ont été acquis avec de l'argent détourné de ce fameux fonds malaisien?
Alors là, le parquet national financier est toujours en train d'enquêter, donc on est encore dans la procédure. Nous aurons sans doute quelques informations dans les mois à venir. Khadem Al-Koubaizi était clairement visé par toutes les polices. Il est aujourd'hui en résidence surveillée, enfin, à Abu Dhabi, mais assez libre de ses mouvements. Il a juste une interdiction de sortir du territoire, ce qui est sans doute mieux pour lui, puisque beaucoup seraient intéressés à l'entendre.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'en 2014, donc il y a déjà 4 ans, le fonds souverain affichait du coup des pertes de 11 milliards de dollars. Là, on est en train de parler de sommes absolument astronomiques. Et vous le soulignez, donc le FBI a ouvert une enquête, la justice enquête aux États-Unis. Pas seulement pour ça d'ailleurs, la justice enquête aussi sur un certain nombre de banques qui auraient recyclé de l'argent venant de ce fonds.
Alors, il y a plusieurs banques qui ont été entendues, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo ont été entendues par la justice américaine, qui s'intéressent aussi au rôle de Goldman Sachs, qui aurait touché 500 millions de dollars de frais de courtage pour l'organisation de l'émission de deux obligations bidons.
Ouais. Alors, au détour de votre article, vous citez aussi quelques noms de politiques français ou d'hommes d'affaires français. Alors là, attention, il ne s'agit pas de les mettre en cause dans cette affaire, simplement on se rend compte qu'il y a des liens. Il y a des liens entre des personnalités citées, notamment ce Khadem Al-Koubaizi, et des politiques français, notamment Nicolas Sarkozy, qui était très proche, proche en tout cas, de ce Khadem Al-Koubaizi.
Khadem Al-Koubaizi était celui qui lui finançait ses conférences à Abu Dhabi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Nicolas Sarkozy était allé plusieurs fois à Abu Dhabi donner des conférences.
Dont vous rappelez qu'on estimait qu'elles étaient rémunérées à 100 000 euros la conférence.
Oui, oui.
Mais il y a plus que ça, il lui a proposé plusieurs fois d'investir dans des intérêts français, notamment dans la société de son ami Stéphane Courbit, le producteur audiovisuel français.
Exactement. Et Nicolas Sarkozy avait également voulu créer un fonds souverain en France en 2009, qui s'appelait le Fonds stratégique d'investissement, le FSI, dans lequel il ne faisait entrer que Abu Dhabi. Donc c'était une sorte de cadeau fait à Abu Dhabi, mais il se trouve que peu d'opérations,
ça a capoté. Et finalement, toutes les tentatives de faire investir Khadem Al-Koubaizi dans des intérêts français ont capoté, hein, faut le préciser. Autre nom qui apparaît, Bernard Arnault, qui a siégé au conseil consultatif de ce fameux fonds malaisien.
Exactement, il a siégé dans ce fonds durant 3 ans, donc c'est quand même assez long. Pour autant, est-ce qu'il a véritablement siégé ou est-ce qu'il avait juste c'était juste une opération d'image pour apparaître sur ce fond?
Oui, parce que lui, vous répond qu'il n'a jamais assisté à la moindre réunion, qu'il était là à titre consultatif, ce qui est tout à fait possible, hein, du reste.
Ce qui est tout à fait possible, mais effectivement, son nom apparaît dans le conseil consultatif du fond.
Il en a fait partie, en tout cas, dans l'organigramme. Et puis, il y a un autre personnage que vous citez, c'est Bernard Squarcini, l'ex-superflic de Nicolas Sarkozy. Alors, lui, il a travaillé pour Khadem Al-Koubesi.
Il était patron de la DCRI. Il est sorti en 2012 et il a créé des cabinets de renseignement privés et il a été effectivement approché par Khadem Al-Koubesi pour s'occuper de, si ce n'est neutraliser, de faire en sorte que certains témoins ne parlent pas dans cette affaire.
D'enquêter en tout cas sur des témoins qui gênaient, on peut dire.
Exactement.
Al-Koubesi, tout ça est un milieu très particulier, bien éloigné de ce que vivent la plupart de ceux qui nous écoutent. C'est une enquête qui va durer des années.
C'est une enquête qui risque de continuer. Cela fait 3 ans que nous travaillons avec mon confrère et ami Jacques Duplessis sur cette affaire. Il y aura sans doute encore de nouveaux développements.
Merci Lionel Lévy, merci de nous avoir raconté ça. Alors je rappelle que cette enquête est à lire en intégralité dans le magazine Sans Froid qui sort donc le 28 juin prochain. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Jérémy Guillon et à Mathias Saléon qui étaient à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait lui notre programmation musicale. Dans quelques instants, Denis Chessou recevra Hugo Verlhomme pour parler de son livre « Demain, l'océan ». Et quant à moi, au nom de la cellule Investigation de Radio France, eh bien je vous souhaite un excellent week-end.